France Musique. Samedi 31 août, soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois est à la réalisation, Frédéric Potry et Maïwenn Lejean à la technique. Bienvenue pour cette émission centrée autour des pratiques amateurs, du chant choral, de la pédagogie. Nous vous proposerons dès à présent chaque samedi matin élèves, professeurs des conservatoires, des écoles de musique et musiciens professionnels aussi seront au cœur de notre émission. Voici d'ailleurs tout de suite le menu du jour. À 8h05, Christophe Chassol viendra nous présenter sa nouvelle chronique, sa petite leçon de musique. À 8h15, la soprano Sabine Devienne nous racontera ses premiers pas de musicienne. À 8h20, notre reportage, Christophe Dillis nous parlera de technique vocale ce matin avec le Chœur de la Cité. Les Funky Frogs, autre chœur amateur, sera mis à l'honneur par Marc-Olivier Dupin, ce sera à 8h30. Et puis nous irons également en région, au Festival de Laon, avec Jean-Michel Vernèche qui sera notre invité à 8h40. Et nous démarrons tout de suite ce matin avec un enregistrement lumineux, celui des concertos de Mozart, concerto pour violon par la violoniste allemande Isabelle Faust. Thank you. La vive énergie de ce premier mouvement du premier concerto pour violon et orchestre de Mozart, servi par la violoniste Isabelle Faust et l'ensemble Il Giardino Armonico, dirigé par le Milanais Giovanni Antonini. Mozart qui a moins de 20 ans lorsqu'il termine d'écrire ce concerto, un instrument dont il jouait d'ailleurs très bien. Le compositeur tchèque Anton Dvorak était lui aussi violoniste de formation, mais c'est comme altiste dans les orchestres de Prague qu'il a gagné sa vie pendant quelques années, tout en participant à l'occasion des séances de quatuor. Le quatuor, il le connaissait donc merveilleusement bien avant d'écrire pour cette formation. Nous allons écouter à 7h38 le quatuor Emerson, quatuor à cordes américain fondé en 1976 à New York, dans l'une des 12 mélodies du cycle Cyprès de Dvorak, dans un arrangement pour quatuor à cordes donc. Et vous allez l'entendre, c'est délicieux. L'une des 12 mélodies du cycle Cyprès d'Antonin Dvorak, arrangé ici pour le quatuor à cordes, on écoutait le quatuor Emerson.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est un événement, 20 ans après son dernier enregistrement, le grand pianiste Ivo Pogorelic marque son grand retour en studio. Ivo Pogorelic, qui était d'ailleurs l'invité de Musique Matin mercredi dernier pour en parler, c'est à réécouter sur francemusique.fr, bien sûr. Alors, 60 ans, 40 ans de carrière, il signe un nouvel album construit autour de deux sonates de Beethoven et de la sonate pour piano numéro 2 de Sergueï Rachmaninov, un disque dont France Musique est partenaire et que je vous propose eh bien, de gagner maintenant sur France Musique. Rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous donnez vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres dans quelques jours. Alors ce matin, je vous propose de deviner qui est le compositeur de la sonate que nous allons écouter dans quelques secondes. Trois propositions. Est-ce Rachmaninov, Beethoven ou bien Mozart? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à tous. Thank you. Ivo Pogorelitch dans cette 22e sonate en fa majeur opus 54, l'Allegretto. Mais qui est l'auteur de cette sonate? Eh bien, c'est la question que je vous pose ce matin pour tenter de remporter ce disque paru chez Sony en partenariat avec France Musique. Trois propositions donc, Rachmaninov, Beethoven ou bien Mozart. Votre réponse sur francemusique.fr. La bonne réponse sera dévoilée eh bien, en fin d'émission. Et puisque l'on parle d'Ivo Pogorelitch, sachez qu'il sera mis à l'honneur de l'émission Le Van de Beethoven d'Aurélie Moreau. Ce sera mercredi prochain sur France Musique à 17h. Il est 7h48 et cette saison, eh bien, j'ai décidé de vous faire découvrir chaque semaine un livre disque ou alors une bande dessinée, un livre pour faire découvrir aux enfants la musique classique. Alors aujourd'hui, on vous en avait déjà parlé il y a quelques mois, j'ai jeté mon dévolu sur David Enko et The Amazing Keystone Big Band qui rend hommage à la grande chanteuse de jazz Ella Fitzgerald avec ce très beau livre disque, La Voix d'Ella. Les 17 musiciens de l'orchestre n'en sont pas à leur coup d'essai évidemment. En 2012, il se consacrait à l'œuvre de Prokofiev, Pierre et le loup, un conte musical raconté par Denis Podalydès. En 2015, le Carnaval Jazz des animaux conté par Édouard Baird. En 2017 encore, Monsieur Django et Lady Swing, narré par Guillaume Gallienne. Et bien cette fois, c'est le talent de conteur du comédien Vincent de Dienne que nous pouvons entendre. Alors La Voix est là, c'est un livre-disque, un conte musical dont l'histoire est signée Philippe Lescher-Meyer, un conte initiatique accessible à partir de 6 ans. Qui parvient à porter un message contre le racisme tout en s'appuyant sur cette musique, ce jazz qui ne prend pas une ride. On peut y voir les magnifiques illustrations tout en couleurs et tout en rondeur d'Amanda Minaccio. Et côté musique, c'est Celia Kameni qui donne la voix à l'héroïne qui est Bess. Bess qui rêve de devenir une grande chanteuse de jazz. En voici quelques extraits.
Louisville, Alabama, 1953.
Dépêche-toi Bess, Mrs. Jones vient de rentrer.
Comme chaque fois que Mrs. Jones revient de la ville, les enfants se bousculent dans l'orphelinat et la directrice n'a pas même le temps d'enlever son chapeau qu'ils se regroupent autour d'elle. Il faut dire que dans son sac, elle rapporte toujours quelques fruits, des bonbons et parfois du chocolat. Puis, les friandises distribuées, elle sort de sa pochette le disque qu'elle vient d'acheter, le pose sur un vieux pick-up et la musique commence. Bess, les yeux pétillants, arrive avec les derniers. Il ne reste plus un seul chocolat, mais elle s'en fiche. Ce qu'elle aime avant tout, Bess, c'est chanter. Chanter, c'est sa passion. Aussi, dès qu'elle entend un refrain qui lui plaît, elle le reprend sans hésiter. Mais cette fois, c'est différent. La chanson que leur a fait écouter Mrs. Jones l'a complètement bouleversée. Cette voix, faite de grave et d'aigu à la fois, c'est exactement comme ça qu'elle rêve de chanter. Ella. Cette chanteuse s'appelle Ella Fitzgerald, a dit Mrs. Jones en lui montrant la pochette du disque. Elle est célèbre dans le monde entier. Bess aime tellement la voix d'Ella qu'elle réécoute le disque toute la matinée, jusqu'à en connaître chaque intonation, chaque variation. Et l'après-midi, malgré la chaleur de l'été, elle rassemble son orchestre sous l'ombre des arbres. Il y a là le petit Jimmy qui frappe le rythme sur des bidons, son amie Daisy qui tire sur des cordes fixées à un manche à balai, et... un garçon dont elle a oublié le nom qui souffle dans un vieux piston. Debout sur une caisse à savon, Bess chante. Elle chante le ciel bleu d'été, le vent, les nuages. Elle chante le soleil, l'espoir, la liberté.
Auntie's got a tasket, a brown and a yellow basket. I send a letter to my mommy on the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it underground, she took it, she took it. My little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die.
Il fait si chaud que les apprentis musiciens l'abandonnent pour aller se baigner dans la rivière qui passe en contrebas. Alors, pour que son rêve se prolonge, elle ferme les yeux et s'imagine comme elle l'a, sur les scènes de New York, à Broadway et dans le monde entier.
Bravo ! Bravo !
Et un extrait de cette voix d'Ella, revisitée par The Amazing Keystone Big Band, ici avec la voix de Vincent de Dienne et puis au chant Celia Kameni. Bien, c'était la sélection du livre-disque de la semaine à 7h et presque 54 minutes.
Thank you.
L'ouverture de Titon et l'Aurore, Jean-Joseph Cassané à de Mondonville, nous écoutions Hervé Niquet et son concert spirituel.
En septembre, à la une d'Opéra Magazine, Benjamin Bernheim. En pleine gloire internationale, le jeune ténor a une saison 2019-2020 très parisienne. Alfredo, dans la nouvelle production de La Traviata au Palais Garnier, puis cet hiver, Desgrieux dans une autre nouvelle production de Manon à l'Opéra Bastille. Opéra Magazine, en partenariat avec Samedi à l'Opéra, l'émission de Judith Chen, sur France Musique, le samedi à 20h, l'Opéra comme si vous y étiez. Carrefour de l'Odéon, le dimanche, de 14h à 16h, France Musique.
Salutations musicales. Eh oui, le Carrefour de l'Odéon devient hebdomadaire et dominical. Avec une nouvelle rubrique pour conclure, cordes sensibles, cordes pincées, frappées, frottées et plus si affinités.
Carrefour de l'Odéon, le dimanche de 14h à 16h, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Et nous sommes le samedi 31 août. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Musique. À suivre dans quelques minutes, Christophe Chassol qui viendra nous présenter sa toute nouvelle chronique, sa petite leçon de musique. À 8h15, la soprano Sabine Devielle nous racontera ses premiers pas de musicienne. À 8h20, notre reportage. Christophe Guillis nous parlera ce matin de technique vocale avec le chœur de la cité. Les Funky Frogs, autre chœur amateur, sera mis à l'honneur par Marc-Olivier Dupin, ce sera 8h30. Et puis, nous irons également en région, au Festival de Laon, avec Jean-Michel Vernège, qui sera notre invité à 8h40. France Musique, il est presque 8h. L'Allegro vivo, le troisième mouvement de cette première sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré avec Teddy Papavrami et Nelson Gurner qui fait beaucoup rire. En tout cas, notre chroniqueur Christophe Chassol qui vient de nous rejoindre. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Et puis c'est une émission autour des pratiques amateurs du chant choral, de la pédagogie que nous vous proposons chaque samedi matin. Eh bien, qu'allons-nous faire avec Christophe Chassol? Surprise!
Chère auditrice, chère auditeur.
Christophe, on reprend les mêmes, on fait la même chose que l'année dernière ou on change un petit peu?
Mais on change un petit peu, c'est ce qu'il y a.
Qu'allons-nous faire cette année avec vous chaque samedi vers 8h03?
Chaque samedi vers 8h03, c'est précis. Hein.
Écoutez, c'est de la radio.
Oui. Écoutez, Saskia, cette année, on va... vous êtes un peu sur les pratiques amateurs, donc l'enseignement, la transmission, le partage. Donc, moi, j'ai eu des super expériences d'enseignement au conservatoire, puis en école de jazz, et aussi au lycée, au collège. On se souvient tous un peu de quelques profs qui sont un peu des jalons, des pierres, des moments, quoi, des moments clés qui nous ouvrent et tout. Donc, voilà, moi, je vais un peu transmettre.
Et puis, vous avez été professeur, vous aussi?
Oui, j'ai donné pas mal de cours de piano. Et puis, j'ai eu des profs de piano un peu géniaux, quoi. J'ai eu le Serge Petit-Gérard, qui était mon premier prof de piano. J'ai eu un prof de piano qui s'appelait Philippe Arieux, qui était prof de solfège de formation musicale, qui était vraiment génial. J'adorais faire les dictées musicales. J'adorais le Danhauser, tout ça. Gartenlaube, c'était la méthode de chant et tout. Et donc, on va avec quelques jeunes, on va dire, quelques jeunes musiciens. Je vais leur apprendre quelques concepts, quelques tricks, quelques chops, quelques des astuces, on va dire. Je sais pas, je vais leur apprendre des choses, des concepts musicaux. Ça peut aller de prétextes à composer, ça peut aller de savoir chanter à un intervalle. Il va y avoir plein de choses comme ça et on va suivre quelques élèves et je vais les aider dans les morceaux dans lesquels ils sont en ce moment. Et puis on va découvrir des concepts musicaux.
Et voilà, chaque samedi matin, eh bien, vous ferez venir en studio un jeune musicien, ouais. Une jeune musicienne, entre 10 et 16 ans, on a d'ailleurs besoin d'eux.
Bah oui.
Ça va en faire un petit appel aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, si vous connaissez bien des musiciens avec quand même un bon niveau, Christophe. On va...
Un bon niveau, il faut qu'ils se débrouillent, mais c'est toujours intéressant. Même un bon niveau, qu'ils sachent un peu, pas forcément lire, mais qui sache un peu jouer quand même.
Voilà, et qui soit ouvert à la rencontre. Avec vous, Christophe, vous serez à deux, à quatre mains au clavier pour faire des exercices d'improvisation, toutes sortes de choses. Donc, si vous voulez bien participer, rencontrer le très grand Christophe Chassol, une seule solution, francemusique.fr, sur la page de Musique Matin, et bien sûr, vous nous envoyez un petit mail.
Et ce ne sont pas que des pianistes.
Hein. Absolument, c'est vrai, c'est bien que vous faites le
des chanteurs, bien de préciser. Des oboïstes, des saxophonistes, des percussionnistes, tous les gens qui s'intéressent à la musique et puis qui la pratiquent.
D'ailleurs, on va commencer l'année la semaine prochaine avec Joe qui a 14 ans, qui est un jeune pianiste.
Ouais.
Qu'allons-nous faire la semaine prochaine, Christophe?
Alors Joe, il avait un morceau de Bach, là, une petite marche de Bach, donc je l'ai un peu beau travailler, et je me suis dit que j'allais voir avec lui plusieurs choses, mais notamment sentir la tonalité, sentir dans quelle tonalité on est avec un morceau. Donc ça passe par déjà déchiffrer l'armature, savoir avec les bémols et les dièses ou dans quelle tonalité on est, et à partir de là jouer la gamme. Et donc je me suis dit on va jouer une gamme et essayer de l'harmoniser, essayer de l'interpréter de plein de façons différentes. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça peut être do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, tout simplement.
Des choses comme ça. L'interprétation. Voilà. Ce sera donc dès la semaine prochaine, autour de 8h, avec, pour démarrer cette année, Joe qui sera notre invité. Christophe, vous avez choisi un morceau pour nous ce matin. Lignetti, fanfare.
Oui, justement, ça. Qui se trouve être un morceau où il y a un ostinato dedans qui rappelle pas mal les danses bulgares là, de Bartok. Et c'est do, ré, mi, fa, fa, dièse, sol, dièse, la, si. Vous savez, c'est tout le long du morceau comme ça, ça passe de la main droite à la main gauche. Donc voilà, c'était un bon petit lien pour la prochaine
chronique. Samedi prochain. Merci beaucoup Christophe et bonne semaine.
Bonne semaine.
Excellent, Pierre-Laurent Aymard ici pour l'une de ses études fanfare de Gheorghi Ligeti pour bien illustrer cette chronique, cette présentation de chronique de Christophe Chassol. Je vous rappelle que si vous souhaitez venir nous voir en studio et jouer à quatre mains avec Christophe Chassol chaque samedi, bien c'est simple. Vous pouvez nous envoyer votre candidature sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin, émission du samedi donc, musicien entre 10 et 16 ans. Eh bien, rejoignez-nous sur France Musique. Il est 8h12. Thank you. Le final, presto, de cette 85e symphonie La Reine de Joseph Haydn. Nous écoutions William Christie et Les Arts Florissants à 8h15.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Et je vous le disais, cette émission est l'occasion de s'intéresser aux pratiques amateurs, à la pédagogie et à la transmission. Et bien, chaque semaine, nous entendrons des témoignages d'élèves, de professeurs des conservatoires, des écoles de musique. Nous nous intéresserons aussi à la diversité des pratiques chorales avec Marc-Olivier Dupin, car le mot amateur n'a rien de péjoratif, si j'en prends la définition. Il s'agit d'une personne qui s'adonne à un art pour son propre plaisir. Évidemment, les effets bénéfiques de la pratique de la musique n'ont plus rien à prouver. Effets sur la curiosité, sur l'attention, sur la mémorisation. Et c'est ce que nous disent aussi régulièrement les musiciens professionnels au micro de France Musique. Ce matin, c'est d'ailleurs la soprano Sabine Devielle qui nous parle de ses débuts et de son parcours de musicienne.
Ce que me procure la musique, je dirais avant tout une grande joie, et je me réjouis d'avoir encore envie de faire autant de musique après toutes ces années. Je me rappelle de mon premier cours, il s'agissait d'un cours de violoncelle avec une toute petite chaise d'école qui était pour une classe de maternelle. J'étais rikiki, j'avais 6 ans, j'étais absolument pas impressionnée et ça m'a beaucoup plu dès le premier cours. Oui, un professeur que je n'oublierai jamais, justement, il s'agit de mon premier professeur de violoncelle, Christophe Béguin, qui non seulement m'a appris le violoncelle, mais aussi qui m'a fait découvrir la musique ancienne. C'est le premier professeur qui m'a conseillé des interprétations, par exemple, de Bilsma. J'ai découvert vraiment le violoncelle baroque et encore aujourd'hui, je suis pétrie de tout ce qu'il m'a appris. Dans mon apprentissage, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est ce mélange et cet équilibre à trouver en permanence entre la rigueur du travail et l'envie. Donc l'envie, ça passe par ne pas travailler et la rigueur, ça passe par travailler. Donc il faut se charger à l'extérieur pour avoir envie de retourner travailler dans sa salle. Je pense que dans l'apprentissage, la plus grande difficulté, c'est de toujours renouveler cette envie. Je me répète un petit peu, mais voilà, il faut aller au concert, il faut aller au théâtre, voir des expositions, lire, pour toujours avoir envie de retourner au labeur, parce que finalement, les plus beaux outils techniques nous permettront d'aller très loin musicalement. Pour les musiciens amateurs, j'aurais peut-être un petit conseil. Et finalement, c'est pas forcément un conseil, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre d'eux. Je pense que justement, les musiciens professionnels devraient garder ce goût du jeu qu'ont si bien les musiciens amateurs. Et voilà, on a beaucoup à apprendre d'une pratique par le loisir.
qu'un calme serein en mon âme s'éveille, qu'il ne reste plus trace de crainte et de rigueur. C'était Ridente la calme, canzonetta de Mozart, interprétée ici par la merveilleuse Sabine Devielle, l'ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon, un extrait de ce disque, double disque, Liberta, Mozart et l'Opéra, double disque sorti hier en partenariat avec France Musique. Eh bien, Sabine Devielle et Raphaël Pichon étaient justement les invités de Jean-Baptiste Robin hier matin. Donc c'est à réécouter bien évidemment sur francemusique.fr. Il est 8h23.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Christophe Guilis.
Bonjour Saskia.
Et c'est le moment de notre reportage sur le terrain de la pratique musicale en amateur. Chaque semaine, nous allons donc à la rencontre des acteurs, professionnels ou non, qui encadrent cette vie musicale amateur un peu partout en France. Christophe, vous nous parlez de la rentrée des ensembles vocaux.
Ben oui, parce que sur France Musique, on est rentré lundi, mais c'est un petit peu tôt pour rendre compte de la reprise des conservatoires et des écoles de musique.
Qui aura lieu dans 2 semaines.
Deux semaines pour certains, plus tard des fois. Mais par contre, certains ensembles vocaux font déjà leur rentrée dès cette semaine. Mardi prochain, c'est le Chœur de la Cité qui fait sa rentrée. C'est un chœur parisien qui répète à la Cité des Arts dans le 4e arrondissement à Paris. J'ai parlé à son chef Romain Bétou, à qui je laisse le soin de présenter son chœur.
Oui, alors le Chœur de la Cité, c'est un ensemble de 24 chanteurs qu'on a créé en 2012. C'est sous l'impulsion d'anciens chanteurs de bon niveau, tous amateurs, mais qui avaient un parcours vocal qui pouvait aller de chanteurs de la maîtrise des Hauts-de-Seine, donc qui ont chanté à l'Opéra de Paris lorsqu'ils étaient plus jeunes, et d'autres grandes formations chorales qu'on peut trouver en région parisienne.
Et c'est vrai que chaque chorale, chaque chœur a un profil différent et un répertoire différent de la pop, de la variété, du classique. Il en faut souvent pour tous les goûts, pour toutes les personnes qui payent leurs cotisations. Là, il s'agit d'un chœur qui est plutôt tourné vers la musique classique.
Notre volonté, c'était vraiment de brasser au maximum tout le répertoire musical qui pouvait être proposé à la musique chorale. Il est vrai qu'au début, on se focalisait assez principalement sur des œuvres qui étaient a cappella pour à la fois travailler le son du chœur et en plus de ça pour aussi des raisons purement logistiques, c'est-à-dire que une petite formation au début, ça manque de moyens et donc pour se lancer, il faut faire des choses simples et ensuite d'aller se confronter, si je puis dire, à des musiques plus qui demandaient plus de volume à la fois vocal et orchestral. Les 7 dernières paroles du Christ de César Franck qu'on a fait avec un petit orchestre de chambre et dernièrement on a été encore plus loin car on a fait le Dixit Dominus de Handel et la messe de minuit de Charpentier qui était accompagnée par un orchestre de chambre de 14 musiciens également.
Alors par contre la question se pose et puis se posera tout le temps dans le milieu choral amateur, c'est pour le chef de chœur comment trouver un langage en répétition dans le travail qui s'adresse à la fois aux chanteurs confirmés et puis aux chanteurs amateurs.
Au début, les chanteurs qui ont voulu constituer le Chœur de la Cité étaient des gens qui étaient plutôt expérimentés vocalement. Et donc, il y avait, le courant passait bien, les explications, toute la technique, à la fois chorale, ce que je pouvais demander et exiger musicalement, était assez compréhensible. Dès lors que le Chœur de la Cité s'est étoffé à 24 chanteurs et on a commencé à avoir du mouvement et des gens qui n'avaient peu ou pas d'expérience musicale et vocale précédente, il a fallu un peu adapter le discours du chef de chœur et c'est là où j'ai dû moi aussi apprendre à vulgariser le langage de direction, le langage musical. Il y a des gens dans cet ensemble qui ne savent pas lire la musique et donc on utilise des outils, alors de temps en temps ce sont des outils digitaux, il faut s'armer de patience, il faut être compréhensif, il faut aussi être exigeant, c'est-à-dire que lorsqu'on sent une dynamique dans l'ensemble, il faut que tout le monde s'accorde sur cette dynamique-là.
Je manque de temps. Pour entendre, vous êtes là pour décorer. Au taquet. C'est bien. Soprano, de temps en temps, vous flippez grave. Vous flippez trop, ça s'entend. Donc, on flippe. C'est bien. Tranquillisez-vous, c'est fastoche.
Et
puis forcément, après la répétition, le concert et la question du rendu se pose. Parce que oui, très bien, les choristes sont là pour passer un bon moment. Mais il y a quand même du public à la fin de tout ça. Et le rendu, donc, est-ce qu'il est professionnel ou amateur?
En termes de qualité sonore, oui, le cœur de la cité peut se rapprocher d'un ensemble professionnel. Là où je dirais que conserve tout de même un ADN amateur, c'est que dans la répétition des concerts, dans la capacité de concentration, dans la capacité de travail, dans la capacité individuelle à progresser musicalement, ils restent tout de même amateurs et ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'être suivis. Ils n'ont pas encore tout à fait l'étoffe personnelle. Et d'ailleurs, ça n'est pas leur aspiration à être des musiciens professionnels.
Le cœur de la cité. Merci beaucoup Christophe Dillis. Et puis vous restez un petit peu sur nos ondes, puisqu'on vous retrouve tout à l'heure à 10h50 pour le premier numéro de votre Tendez l'oreille. Voilà. Moi, je n'ai raté absolument aucune chronique depuis ces longs mois. Donc Christophe, je serai à l'écoute, évidemment.
Merci beaucoup. En plus, tout à l'heure, comme c'est la rentrée, je parlerai du bourdon.
Ça tombe bien. Ben oui, c'est tout à fait à propos. Christophe, à très bientôt. Merci beaucoup pour ce reportage. Il est 8h29.
With me, a cat, Rayon Copeland ici par le Mormon Tabernacle Choir, Luta Symphony, Michael Tinson Thomas à la direction. 8h31. Et c'est l'heure de notre chronique battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Saskia.
On va parler de chant choral dans toute sa diversité. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans la musique chorale?
Il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Je pense que la propre passion des choristes, déjà, on l'a entendu à l'instant, mais je pense qu'il y a des universaux extraordinaires. D'abord, c'est le rapport à la voix, avec le rapport au corps, à la respiration. Il y a le partage dans l'écoute de l'autre, la connivence, la complicité, et puis, évidemment, dans les pratiques pédagogiques, toute la dimension sociale. Qui est très forte, c'est-à-dire que quand on chante, c'est comme dans d'autres actes de la citoyenneté, on est tous égaux, et ça c'est vraiment merveilleux.
Alors, qu'allons-nous découvrir, Marc-Olivier, dans cette chronique cette année?
Alors, on va découvrir des choses parfois singulières, parfois singulières pour leur démarche, parfois singulières pour leur répertoire. Je trouve formidable dans le monde choral la diversité des répertoires, la diversité des pratiques, puisqu'il y a à la fois des petits, des grands, des jeunes, des âgés. Il y a des petits groupes comme par exemple les polyphonistes de la Renaissance. Il y a aussi les grands chœurs symphoniques. On a une diversité absolument phénoménale qui recoupe aussi musique savante, musique populaire, musique du monde. Et donc c'est un voyage qui sera pas toujours d'ailleurs sur l'actualité, mais en tout cas sur des choses frappantes et marquantes du répertoire choral.
Eh bien d'ailleurs, commençons tout de suite, Marc-Olivier. Quel est votre coup de cœur du jour ?
Le coup de cœur du jour, c'est un groupe qui s'appelle les Funky Frogs, qui est, malgré son nom, est un ensemble français qui est dirigé par une jeune chef de chœur qui s'appelle Jeanne d'Ambreville. C'est un groupe de 30 choristes, 15 femmes et 15 hommes. Amateurs, tous amateurs, de 20 à 60 ans, avec une moyenne d'âge à peu près autour de 30 ans. Seule la chef est professionnelle, mais de formation classique, elle a suivi des cursus tout à fait académiques, mais ça n'empêche pas de s'intéresser dans ce groupe à des répertoires comme la soul, pop, funk et parfois même le hip-hop. C'est une musique plutôt américaine et les arrangements sont faits par la chef de chœur, qui sont d'ailleurs très exigeants et sophistiqués, puisque parfois ça va même jusqu'à une douzaine de voix réelles, ce qui est une vraie prouesse polyphonique, à la fois dans l'écriture mais aussi pour les interprètes. L'originalité de ce groupe tient à la diversité des profils de choristes. Certains prennent des cours de chant, tandis que d'autres ont découvert la technique vocale en chantant dans le groupe. Et ça, je trouve ça très intéressant, cette diversité des profils, parce que souvent les chœurs sont un peu normatifs dans leur recrutement. Là, pas du tout. Je crois que le principal critère est la motivation. Et il faut savoir aussi que ce chœur a une particularité, c'est qu'il travaille énormément dans l'espace. Alors, il travaille avec une chorégraphe, Sybille Soulier, mais tout le travail est vraiment conçu dans l'espace, à la fois dans le rapport au corps, mais dans le rapport à l'écoute. Et les concerts ne sont pas dirigés, c'est-à-dire que l'apprentissage des polyphonies se fait de façon dirigée par Jeanne d'Ambreville, mais au moment du concert, c'est vraiment l'autonomie et la liberté du mouvement qui compte beaucoup dans ce travail. Donc je crois que c'est très original. C'est très original dans la façon de travailler, de concevoir. Et Jeanne d'Ambreville, d'ailleurs, elle-même dit que le fait de se débrouiller sans chef, c'est probablement le plus gros défi du groupe. Rester à l'écoute, ne pas se décaler, garder un son homogène, tout en étant complètement dans l'interprétation, la transmission d'énergie au public. Et ce sont des allers-retours, toujours d'après Jeanne, des allers-retours constants entre l'intérieur, ce qu'on entend de soi et des autres, et l'extérieur, ce qu'on projette, ce qu'on donne à voir. Cet équilibre à retravailler constamment demande une attention de chaque instant. C'est un extrait de Hey Ya, qui a été composé par André 3000, de son
Outcast, je m'en rappelle, moi, c'était génial ce morceau.
Mais c'est très intéressant les répertoires qu'elle choisit, parce que justement, c'est de mondes complètement divers.
Funky Frogs, merci beaucoup Marc-Olivier Dupin pour cette découverte, certainement pour nombre de nos auditeurs, et puis on vous tiendra informés des prochains concerts à venir. Bien évidemment, Marc-Olivier, à la semaine prochaine.
Oui.
Il est 8h37. On va poursuivre avec de la musique live aussi, parce que chaque samedi, France Musique, le live, c'est à 16h sur France Musique, Génération France Musique, le live plus exactement, avec Clément Rochefort qui recevra d'autres musiciens, une violoncelliste, Emmanuel Bertrand, une chanteuse, Karen Vourges, Carole Beffa, l'ensemble Télème, le trio Ionis également, notamment la violoncelliste, Emmanuel Bertrand, qui vient de faire paraître un disque consacré aux suites de Bach. Mais dans cette section 8h38, j'avais envie de vous faire entendre un petit document d'archives, un extrait de cette émission diffusée sur France Musique en 1996, depuis le salon Musicora. Emmanuel Bertrand duo avec Laure Favre-Kahn, un extrait de cette première sonate de Johannes Brahms.
Thank you.
Le troisième mouvement de la première sonate pour violoncelle et piano de Johannes Brahms, interprété ici par Emmanuel Bertrand, Laure Favreau-Kahn, en live, vous l'entendez, qui remonte à 1996. Il est 8h45.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir en studio Jean-Michel Vernèche. Bonjour, bienvenue dans Musique Matin.
Bonjour, merci.
Quel plaisir de vous recevoir pour parler de ce Festival de Laon dont vous êtes le directeur artistique. Festival qui ouvrira ses portes le 6 septembre et ce jusqu'au 9 novembre. 31e édition, festival créé en 1989. Ça fait déjà quelques années, Jean-Michel Vernèche. Quel est votre meilleur souvenir ?
Certainement l'un des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, lequel nous avons, vous savez, un partenariat exemplaire, je dois dire, depuis pratiquement 25 ans. Nous l'avons d'ailleurs commémoré par un grand concert la saison dernière, et l'orchestre a à nouveau présent cette année.
La plus belle réaction d'un spectateur, d'un festivalier ?
Je crois que c'est précisément des réactions qui expriment le sentiment un peu d'incrédulité d'écouter dans cette ville des artistes de ce niveau. C'est vrai que je citais l'Orchestre Philharmonique, dans une ville de 30 000 habitants, ça n'est pas commun. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une action de l'orchestre qui se déploie beaucoup plus en région que ce fut le cas par le passé. Et d'une certaine manière, cette action avait été pionnière, vous imaginez, dans les années 95-2000. C'était pas si évident que ça. Donc voilà, je crois que les publics de ce festival sont d'une certaine manière ravis évidemment et étonnés en même temps agréablement d'entendre ces artistes dans ce territoire.
Il y a un festival, vous le disiez, qui se déroule donc à Laon dans le département de l'Aisne, dont vous êtes originaire d'ailleurs, Jean-Michel Vernèche.
Oui, exactement.
Entre Châlons-en-Champagne, Amiens et Charleville-Mézières, festival qui démarra donc le 6 septembre, de la musique symphonique, des récitals, de la musique de chambre, une dizaine de concerts. Comment avez-vous construit cette programmation? Y a-t-il une thématique particulière cette année?
Oui, alors on s'intéresse cette année à la musique classique, à la vraie musique classique.
C'est esthétiquement, quoi la vraie musique
esthétiquement,
classique?
Esthétiquement parlant et historiquement parlant, c'est-à-dire grosso modo la période de ce que Charles Rosen, c'est le musicologue et pianiste américain, a appelé le grand triumvirat, c'est-à-dire Mozart, Haydn, Beethoven. Mais je voudrais dire qu'en fait ce festival s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. Moi j'agis dans le cadre d'une action départementale, donc qui est soutenue par le département, le conseil départemental de l'Aisne, pour le développement de la musique dans ce département. Et le Festival de Laon a été conçu, donc en 1989, de façon complémentaire à celui de l'abbaye de Saint-Michel en Thiérache, que vous connaissez aussi bien dans cette maison.
Sur France Musique, évidemment.
Et qui est un festival, lui, qui est dévolu à la musique baroque. C'est la raison pour laquelle, à l'automne, nous avons ce festival qui est plutôt orienté vers la musique des 19e et 20e siècles.
Cela dit, vous allez un petit peu anticiper de quelques mois les 250 ans d'un compositeur qu'on connaît bien aussi, Beethoven.
Oui, alors cette anticipation n'est pas une lubie, mais s'inscrit justement aussi dans l'action dont je vous parlais à l'instant, et notamment dans le cadre d'une relation étroite que nous avons avec un nouvel équipement de ce département qui est la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons, qui est un équipement qui existe depuis 5 ans maintenant, et qui réunit à la fois le conservatoire et un grand auditorium qui est dévolu vraiment à la musique acoustique. Et il y a eu des études qui ont été faites, c'est une des plus belles salles de concert de la région désormais. Et nous coproduisons avec cette salle donc 3 concerts du Festival de Laon. Donc Laon se décentralise aussi d'une certaine façon à Soissons. Et c'est parce que la saison à laquelle nous collaborons aussi de cette maison qui va fêter Beethoven en 2020, notamment par une intégrale des symphonies de Beethoven, que nous avons décidé à l'automne d'anticiper un peu et de croiser certains programmes d'ailleurs qui seront également donnés à la Cité de la Musique à Soissons.
Le Festival de Laon qui accueillera Hervé Niquet et son concert spirituel, les pianistes Nikolaï Louganski, Anne Kefelec, les violoncellistes Anne Gastinel et Edgar Moreau, l'orchestre Les Dissonances, l'orchestre philharmonique de Radio France, vous en parliez, Jean-Michel Vernèche, mais aussi l'orchestre de Picardie. Et puis le coup d'envoi sera donné donc le 6 septembre à 20h par l'Orchestre français des jeunes, orchestre français de jeunes musiciens qui sont formés au métier de musicien d'orchestre sous l'égide de grands chefs. C'est un signe, il y a une signification particulière de ouvrir le festival avec cet orchestre-là.
Bien, ça signifie surtout que notre grande préoccupation est précisément aussi la formation, l'élargissement des publics et les actions pédagogiques. Je m'attache beaucoup à faire en sorte, dans l'ensemble de nos actions, de décloisonner d'une certaine manière les secteurs de la diffusion, de l'enseignement, de la pédagogie et des pratiques amateurs. Ça ne veut pas dire de tout mélanger, bien entendu, mais de créer les meilleures passerelles et articulations possibles. Et l'Orchestre français des jeunes, c'est aussi un partenaire très ancien. Ça fait plus de 20 ans que nous l'accueillons très régulièrement dans le cadre d'un partenariat partenariat qui s'est aussi développé parce que vous savez qu'il y a la formation symphonique qu'on va entendre le 6 septembre à la cathédrale de Laon, mais il y a aussi la formation anciennement baroque, j'allais dire, qui devient maintenant plus classique avec la direction de Julien Chauvin, qui va être en résidence à la Cité de la musique à Soissons au mois de novembre. Donc là, on
encore
a toute cette
liens.
Articulation et ces liens qui procèdent de ce que j'appelle souvent notre mécano.
31e festival de Laon en partenariat avec France Musique qui démarre donc le 6 septembre. Une seule adresse pour bien réserver vos places, festival-laon.fr. Jean-Michel Vernège, un petit mot sur ce choix musical que vous nous offrez ce matin.
Alors c'est le fameux air, alors classicisme, on
classicisique,
de Chérubin, des Noces de Figaro de Mozart, le second air, c'est avec Chérubin a deux grands airs dans les Noces de Figaro, ça c'est celui du début du deuxième acte, où il exprime son mal-être amoureux, son incompréhension finalement de l'amour, et c'est le fameux « Voice sapete » que je trouvais très significatif de notre thème classique.
Merci beaucoup Jean-Michel Vernège, et puis à très bientôt merci sur France Musique et au Festival beaucoup. De Laon. Voyque sapete, air de Chérubin, interprété ici par Frédéric Avanstad, l'Orchestre Philharmonique de Londres, Georg Scholti, à la direction, extrait des Noces de Figaro de Mozart. On va continuer à parler d'opéra à 8h53.
L'heure est trouvée sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et tous les samedis à 20h sur France Musique, votre rendez-vous avec l'opéra. Samedi et l'opéra, c'est avec Judith Chen. Et eh bien, chaque samedi, dorénavant, Roselyne Bachelot va venir nous dire quelques mots des productions qu'on aura le plaisir d'entendre sur France Musique. Bonjour Roselyne.
Oui, bonjour Saskia.
Et c'est une Iphigénie.
Ravie de vous retrouver.
Mais de même, c'est une Iphigénie brûlante qui sera sur les ondes de France Musique ce soir.
Ah oui, certains amateurs de jeux de mots se sont demandé si, après cet été caniculaire, il ne convenait pas de modifier l'orthographe de l'opéra de Gluck pour une Iphigénie décidément torride. Nous allons nous régaler ce soir dans la production présentée par le Théâtre des Champs-Élysées dans une mise en scène très noire de Robert Carsen. On connaît l'histoire archétypale du père sommé par les dieux de sacrifier son enfant pour s'acquérir les faveurs divines. Euripide fut le premier à raconter l'histoire d'Agamemnon sacrifiant sa fille Iphigénie pour complaire à Artémis, gagner ainsi la guerre de Troie. Les romans, les pièces de théâtre, les opéras, même les films sur ce thème sont nombreux et donnent lieu à des variantes plus ou moins sanglante qu'on peut résumer. Soit Iphigénie est bien sacrifiée, ce qui est le fil conducteur préalable de l'Electra de Richard Strauss, soit par divers subterfuges, interventions divines, substitutions, elle est sauvée, ce qui est le cas dans l'opéra de ce soir. D'Euripide à Kakoyanis, en passant par Racine et Goethe, nos auteurs s'en sont donnés à cœur joie. Pour ce qui concerne le cher Christophe Willibald Gluck, il nous fait ça sur le thème. Il nous a fait deux opéras, Iphigénie en Aulide, en 1774, moins connu, moins joué, même s'il rencontrait les faveurs de Richard Wagner quand même, et que la version conduite par John Eliot Gardiner avec l'Opéra de Lyon lui a redonné un coup de jeune. Mais c'est le second opéra, celui de ce soir, Iphigénie en Tauride, qui tient la vedette sur toutes les scènes lyriques du monde avec des productions mythiques comme celle de la Scala dans la version italienne, écrite par Lorenzo da Ponte en 57, avec la mise en scène de Luchino Visconti avec Callas dans le rôle titre. Comme souvent, la création de l'œuvre fut à l'origine d'une de ces bagarres délicieuses dont raffole le mundillo lyrique. Un dénommé Dubreuil avait composé un livret sur ce thème, l'avait proposé à Gluck, mais celui-ci avait déjà pris langue avec un autre auteur, un dénommé Nicolas-François Guillard. Furieux, Dubreuil confie son œuvre au rival de Gluck, Piccini, qui exige de De Vim, le patron de l'Académie royale de musique, qu'elle soit jouée au premier. Mais, et pas de chance, Gluck avait pris quelques longueurs d'avance. Les répétitions commencèrent, tout était prêt pour la première le 18 mai 1779. La reine Marie-Antoinette, qui était une fan absolue de Gluck, hein, fut conduite à sa loge par la direction de l'opéra qui portait des flambeaux. Je ne sais pas si Stéphane Lister a poursuivi la tradition, je ne pense pas. Avouez que ça avait quand même une certaine allure. Le succès fut immédiat, agrémenté de quelques polémiques qui assurèrent un succès durable à cette Iphigénie. Gluck se laissa faire pour ajouter à la demande du public un ballet final dont la musique fut composée par Gossec et qui est heureusement tombé dans les oubliettes. Donc ce soir, pas de ballet, hein, mais une sublime musique avec des morceaux inoubliables, en se rappelant la phrase de l'abbé Arnaud, « Il n'y a qu'un beau morceau, c'est l'opéra tout entier ». Un trio de chanteurs français domine la distribution, Gaël Arquez, Iphigénie, dans une prise de rôle absolument réussie, Stéphane Degout qui campe un Oreste halluciné, Alexandre Duhamel impressionnant dans le rôle de Thoas. Attention, dans les premières publications, les deux rôles sont attribués à des basses, il s'agit en fait de basses tailles, donc des barytons basses, les deux personnages sont donc parfaitement distribués. Évidemment, je vous ai réservé l'air magique de « Ô malheureuse Iphigénie à l'acte 2 est trop heureux », les auditeurs de France Musique.
Gaël Arquez ici pour cet extrait de Malheureuse Iphigénie, extrait d'Iphigénie en Tauride de Gluck, à écouter sur France Musique ce soir à 20h avec Judith Chen, bien évidemment, dans Samedi à l'Opéra. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot.
Oui, merci, à la semaine prochaine.
Pour cette introduction, à la semaine prochaine, bien évidemment. Et puis 8h58, quelques secondes encore pour, eh bien, vous donner la bonne réponse de notre concours tout à l'heure. La sonate que nous écoutions sous les doigts d'Ivo Pogorelitch était bien la 22e sonate de Beethoven. Les gagnants seront prévenus par email. Quelques secondes encore pour moi, le temps de remercier toute l'équipe et évidemment ce matin, Marie Ferdinand, Laurent Lefrançois, Frédéric Potry et Maïwenn Lejeune.
À réécouter sur francemusique.fr.